France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
La fête, objet philosophique, c'est notre série de cette semaine, en ce mois de décembre, dirigée vers ce qu'on appelle les fêtes. Aujourd'hui, Nietzsche et le dionysiaque. Est-ce dans la Grèce antique que Nietzsche a trouvé le motif du dionysiaque ? Oui, c'est sûr. Mais le dieu grec Dionysos ressemble beaucoup au dieu d'Inde, Shiva. Et il paraît que les Grecs le considéraient souvent comme une divinité étrangère. Comme si quelque chose de non parfaitement grec s'exhalait de ce dieu des excès et de la fête. Quelque chose qui dérangeait en profondeur d'autres valeurs grecques, tout ce que charriait la figure d'Apollon, à savoir l'ordre, la mesure, la beauté équilibrée. Et Nietzsche ne le savait que trop, lui qui dans son livre de 1872, publié à l'âge de 28 ans, La naissance de la tragédie, s'intéressait surtout à la tension et peut-être à l'équilibre instable, plein de vie, que constitue la rencontre grecque de Dionysos et d'Apollon. Et Nietzsche n'a cessé lui-même de réélaborer la notion de dionysiaque, cet art des fêtes qu'il faut, à ses yeux, cultiver toute sa vie joyeusement, en le réinventant toujours, en osant le faire triompher même quand on est malade, même sur son lit de mort. Quitte à abandonner, parfois, des figures du dionysiaque attirantes un certain temps pour Nietzsche, mais jugées finalement mensongères, dévitalisées. Ainsi la musique de Wagner, qu'il épingle en 1888, comme empreinte de christianisme morbide, de lourdeur allemande et, c'est Nietzsche qui parle, de goût névrotique du colossal. Wagner, surtout le dernier Wagner, évoque une quête du dionysiaque qui se serait perdue, devenue décadente, je cite toujours Nietzsche. Celui-ci lui préfère alors le français Bizet et sa Carmen, qui peut-être est d'autant plus festive et pleine de vie, dionysiaque, qu'elle est aussi légère, subtile, apollinienne. Bonjour Lucie Le Breton.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie, chargé de cours à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous connaissez très bien l'œuvre de Nietzsche. Je renvoie notamment à votre ouvrage de 2023 aux éditions Honoré Champion, Nietzsche, lecteur de Pascal. Et bonjour Stéphane Flocari.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie au lycée Martelin Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés, vous aussi chargé de cours à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes un excellent connaisseur de Nietzsche sur lequel vous ne cessez de publier. Plein de choses sont en cours, je sais. La fête vous intéresse aussi philosophiquement. Je rappelle, car vous en avez déjà parlé ici, que vous avez publié aux Belles Lettres un livre intitulé « Survivre à Noël » et un autre intitulé « Nietzsche et le Nouvel An ».
Durant les trois jours que dure à Rome la fête des Saturnales, c'est partout la licence la plus totale. La plus grande vogue depuis quelques années consiste à se promener dans les rues, les garçons travestis en filles et les filles habillées en garçons. Attention, César, gare aux erreurs.
Il ne m'appelle pas César. Je désire garder le petit incognito. Ménippo est un grec, je commence à m'impatienter.
Mais c'est là, deux pas d'ici. Je vais te présenter à la grecque. C'est une femme du monde, tu verras.
Mais sa maison.
Exceptionnelle, on y discute philosophie, les élites romaines se rassemblent chez elle chaque soir. Ça, je ne sais pas ce que l'on pensera de nous plus tard. Il se peut qu'on dise que nous étions indécents, mais on ne pourra certes pas nier que nous savions.
Mon règne sera classé dans la catégorie rare chez les Romains des règnes gays. Ça, c'est ça.
C'était un extrait d'un film à sketch, le plus vieux métier du monde. Et là, on entend une fête des Saturnales dans le sketch numéro 2, réalisé par Mauro Bolognini. C'est assez ancien, ça date de 1967. Mais je voulais absolument qu'on évoque les Saturnales, le monde romain, qui n'est pas celui qu'évoque immédiatement Nietzsche, qui parle plutôt des Grecs, même si tout l'intéresse, bien évidemment. Lucie Le Breton, vous insistez beaucoup, je crois, sur le fait que quelque chose comme l'excès pour l'excès, qui pouvait apparaître dans les fêtes des Saturnales et dans un certain nombre de fêtes hivernales des peuples païens, ce n'était pas du tout du goût de Nietzsche et son dionysiaque à lui est un peu différent.
Oui, en effet, Nietzsche, en fait, au début de la naissance de la tragédie, distingue le dionysiaque grec du dionysiaque barbare, en insistant sur le fait que ces fêtes du printemps, constituées de démesures, de violences, d'ivresse, ne sont pas nées en Grèce, qu'elles sont arrivées en Grèce par toutes les voies de terre et de mer, comme il dit. Et Nietzsche oppose en fait le dionysiaque barbare au dionysiaque grec en disant c'est à peu près comme si on comparait le satyre barbu à l'apparence de bouc avec le dieu Dionysos lui-même. C'est-à-dire que ces fêtes sont constituées d'un breuvage de sorcière, comme il dit, fait de volupté et de cruauté. Et ce qui intéresse Nietzsche, en fait, c'est ce que les Grecs ont réussi à faire de la pulsion dionysiaque, c'est-à-dire la manière dont ils vont dompter cet élément étranger, la manière dont le déferlement dionysiaque va être freiné, contrôlé, orienté par l'Apollinien pour créer cette œuvre d'art nouvelle qu'est la tragédie.
Alors parlons un peu de ces fêtes d'hiver qui existaient en particulier chez les Romains, qui vous intéressent beaucoup, Stéphane Flocari, dans votre livre « Survivre à Noël », qui est un livre vraiment à la fois on apprend plein de choses et non dénué d'humour. Vous nous rappelez que les fêtes d'hiver avaient souvent, par exemple chez les Romains et dans d'autres peuples, la fonction de nous faire du bien et de nous réchauffer avec mille excès, parce que l'hiver c'est très long et que survivre à Noël, ce n'est pas une métaphore. Aujourd'hui, nous le disons sur un mode humoristique, allons-nous survivre à nos réunions de famille ? Mais en vérité, c'est littéral. Et c'était en effet un monde d'excès. Les Romains, d'ailleurs, vous allez aussi nous expliquer cela, vous le faites tellement bien. Il y avait toute une tendance à les placer un peu plus tard que en décembre-janvier. C'est mars qui était pour eux un vrai début. Je vous écoute parce que vous êtes le meilleur prof sur ces questions que j'ai jamais rencontré.
Ben, disons qu'effectivement, le moment du solstice d'hiver, c'est un moment très particulier. C'est un moment jusqu'auquel il faut survivre et à partir duquel on peut revivre. Alors effectivement, les Romains, au mois de janvier, au mois de Janus, qui se tournaient en partie vers le passé, en partie vers l'avenir, faisaient leur compte, ouvraient leur calendrier. Mais à la fin du mois de décembre, ils faisaient de grandes fêtes dans lesquelles il y avait ces inversions des rôles dont on a entendu quelque chose dans le son qu'on a eu juste avant. Et les Saturnales, c'était effectivement ce moment d'excès, ce moment aussi où on décorait ses maisons, on se faisait plaisir, on mangeait, on faisait des orgies. Alors, c'est plutôt les chrétiens, en réalité, qui avaient mis, eux, Noël un peu plus tard. Et c'est à cause des Romains que les chrétiens l'ont avancé. Parce que, pour les chrétiens, la fête la plus importante, c'était plutôt au solstice, à l'équinoxe, pardon, de printemps, au moment où il y a un équilibre entre le jour et la nuit. Et donc, on pensait que le Christ était né là. Mais voilà, ils ont déplacé au bout de certains conciles la date à Noël, qui correspond, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, pas simplement à des cultes romains, mais aussi scandinaves, de régénération. Alors effectivement, on déborde, il n'y a plus de mesure, il y a de la démesure, et en même temps, il y a une mesure, il y a une chose que les gens oublient, c'est que la bûche, par exemple,
oui.
La bûche de Noël, le petit bout là de gâteau qu'on mange à Noël, au départ c'était un grand arbre qu'on coupait, et qui servait de sorte d'unité de mesure chronologique, puisqu'on coupait un tronc assez long, pour que pendant tout le mois de décembre, il brûle tout doucement,
oui.
Et qu'à la fin, il reste plus rien. Et donc là, on avait surmonté la nuit, on avait surmonté la peur, et je pense que d'ailleurs, dans toute fête, on va en reparler, mais dans le dionysiaque aussi, et dans ce que les Grecs ou les barbares entendaient, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la peur de la nuit, de l'ivresse, de la démesure.
Et finalement, les chrétiens, si je vous ai bien suivi, sont allés dans le sens d'une tendance romaine qui s'opposait au calendrier julien, celui-ci commençait au 1er mars. Il y avait une hésitation, hein, car César et Numa avaient maintenu janvier. Et finalement, il y a eu un consensus que le calendrier grégorien au Moyen-Âge a tout à fait consacré.
Absolument, c'est sûr, c'est vraiment un jeu de calendrier. En fait, ça s'est joué même plus tôt dans des conciles médiévaux, mais en réalité, les chrétiens ont aligné, sans aucun déshonneur ni aucun abandon, ils ont aligné leurs fêtes sur en fait des réjouissances beaucoup plus anciennes qui remontaient aux Romains et que les Romains eux-mêmes, on parlait de ce qui vient par terre et par mer tout à l'heure. Évidemment, Nietzsche a tout à fait conscience que aussi bien la romanité que l'hellénité sont pénétrées par l'Orient. Et le culte des fêtes de fin d'année chez les Romains vient clairement de Mithra et de Perse.
Mais est-ce qu'il aime ça? Vous venez de dire, Lucie Le Breton, pas tout à fait. Il est plus grec que romain. Et il n'est certainement pas très amoureux du christianisme, qu'il trouve morbide. Peut-être essaye-t-il de rattraper dans des fêtes d'hiver pleines de démesures ce qu'il appelle, lui, une certaine haine de la vie au quotidien. Donc là, on en fait trop, mais ça ne rattrape rien du tout. Est-ce que j'exagère, ou est-ce que nous avons bien là un Nietzsche très, très critique du christianisme?
Alors, les Dionysies, c'est les fêtes du printemps. C'est le moment justement de communion avec la nature, et donc d'où les pulsions violentes. Et effectivement, ces fêtes barbares venues d'Asie, c'était notamment les sacées babyloniennes dont il parle dans La naissance de la tragédie, il les décrit comme un déchaînement sexuel débridé, comme une fête d'une grande cruauté, hein, puisqu'on prenait un condamné à mort dont on faisait le roi de la fête, qui pouvait satisfaire tous ses désirs durant la fête et qu'on conduisait au supplice à la fin
de la fête. Qu'est-ce qu'il en pense, Nietzsche ?
Alors Nietzsche, en fait, on sent un certain dégoût finalement vis-à-vis de ce breuvage de sorcières. On sent que c'est pas du tout ce qu'il aime. D'ailleurs, chez Nietzsche, le laisser aller. D'ailleurs, il en parle en français. C'est pas tellement Nietzsche. Hein. Nietzsche, c'est le penseur de la maîtrise de soi. Et d'ailleurs, en fait, l'Apollinien va devenir, finalement, on peut considérer que l'Apollinien dans l'œuvre de Nietzsche va progressivement être intégré au dionysiaque. C'est-à-dire que progressivement, il ne parlera plus que du dionysiaque et de moins en moins de l'Apollinien. Mais en fait, on peut penser que l'Apollinien va être intégré au dionysiaque pour devenir une dimension du dionysiaque.
C'est un peu ce que je voulais suggérer dans mon introduction, car c'est vrai que Nietzsche aime un oui à la vie, dont nous allons beaucoup parler, mais l'excès n'est pas son rapport premier à ce oui à la vie. Il y a, alors peut-être parlons-en encore avec les Grecs et avec La naissance de la tragédie, son livre de 1872. Dans une légende, enfin je suis pas très, ou dans une mythologie, j'ai besoin de votre aide. Dionysos avait un ami qui s'appelait Silène. Et qu'est-ce qui lui arrive?
Alors oui, Nietzsche raconte cette légende populaire au début de La naissance de la tragédie. Le roi Midas avait pourchassé pendant longtemps le sage Silène, compagnon de Dionysos. Et quand il parvient enfin à le capturer, il lui demande quelle est la meilleure de toutes les choses pour l'homme. Et Silène refuse de répondre, et puis, contraint par le roi Midas, il finit par dire: la meilleure de toutes les choses, elle t'est inaccessible, c'est de n'être pas né, de n'être rien. La seconde, en revanche, elle est pour toi, c'est de mourir le plus tôt possible. Et donc ça intéresse beaucoup Nietzsche, parce que ça révèle le fond extrêmement tourmenté, extrêmement pessimiste, nihiliste même.
Tragique, tout simplement.
Des Grecs.
J'ose dire tout simplement, mais c'est
difficile. Alors moi, je pense que la tragédie, c'est plutôt la manière dont les Grecs vont surmonter ce fond extrêmement pessimiste et nihiliste. C'est-à-dire que dans la tragédie, les Grecs esthétisent l'horreur de l'existence. L'inceste, le suicide, le meurtre, etc. Enfin, tous les aspects les plus horribles de l'existence se retrouvent dans la tragédie. Mais on en fait quelque chose de beau. Donc, quelque chose auquel on prend plaisir. Quelque chose donc que l'on approuve quelque part. Et donc, Nietzsche voit dans la tragédie la manière pour les Grecs de surmonter ce dégoût de la vie pour le convertir, au contraire, en un amour de la vie dans tous ses aspects, jusque dans ses aspects les plus terribles.
Je cite ici le deuxième paragraphe de la naissance de la tragédie de Nietzsche. Il semble que les Grecs, pour un temps, aient été totalement prémunis et protégés des émotions enfiévrées de ces fêtes romaines, grâce à la figure d'Apollon, il le dit explicitement dans ce passage, qui se dressait ici de toute sa fierté. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que c'est très important de comprendre que y a pas des moments où on oublie la mort et la vie est extraordinaire et d'autres où on peut se laisser aller, Stéphane Flocari, à disons, un non à la vie, chagriné et un petit peu pusillanime pour Nietzsche. Est-ce que vous seriez d'accord avec Lucie Le Breton pour dire que Nietzsche voit la mort à chaque instant de la vie, il faut l'accepter. C'est ça le tragique. Et les Grecs, comme dans l'histoire que vous venez de raconter du frère de Dionysos ou de l'ami de Dionysos, les Grecs nous ont appris à constamment dire oui à la vie alors que la mort guette toujours.
Alors, il y a beaucoup d'éléments dans votre question et dans tout ce qu'a dit aussi Lucie Le Breton. Dans le terme maîtrise de soi, qui est un terme que j'entends et que je comprends. Moi, je lui préférerais peut-être celui de surmonter que celui de maîtriser chez Nietzsche. Mais en un sens, évidemment, non dialectique. Il s'agit pas de relever pour abolir tout en conservant. C'est pas ça. C'est que, effectivement, il me semble que la question centrale qui se joue dans le Dionysiaque, elle a un lien avec les fêtes des Grecs, elle a un lien avec les barbares. Mais enfin, chez Nietzsche, quand on considère ce que fait Nietzsche, et le génie philosophique de Nietzsche, c'est que précisément, il s'approprie des choses pour les besoins d'une pensée qui est la sienne et qui est en constante évolution. Alors sur la mort, par exemple, vous évoquiez la question de la mort, que forcément on rencontre chez Nietzsche. Nietzsche dit, ben voilà, les hommes vivent dans une grande confrérie de la mort, c'est ce qu'il dit dans le Gai Savoir. Et en réalité, ils sont reliés entre eux par la mort, mais ils l'oublient quasiment à chaque instant. Et moi, je voudrais leur rendre d'autant plus digne, non pas la pensée de la mort, mais la pensée de la vie. Alors, toute la difficulté, effectivement, pour Nietzsche, c'est d'affirmer la vie, et de l'affirmer, comme nous l'avons dit les uns et les autres, ici, dans la totalité de ses aspects. Or, la tragédie grecque, il me semble que dans le parcours de Nietzsche, du jeune Nietzsche philologue, qui quand même, pour la naissance de la tragédie, va se faire haïr d'une bonne partie de sa profession, et ils vont lui tourner le dos.
C'est à l'époque
philologue. C'est la philologie classique. Et spécialement, effectivement, les Grecs, encore qu'il connaît très bien les Romains, et qu'il dit que Horace et Salluste sont les deux véritables stylistes auxquels il doit tout, dans la crépuscule des idoles, dans ce que je dois aux anciens, il signale ces deux auteurs-là, en particulier. Mais effectivement, la pensée de Nietzsche est une pensée en constante évolution, et quand elle démarre par son coup d'envoi dans la naissance de la tragédie, Nietzsche jette son œil, et c'est une image qu'il utilise souvent, au fond des atrocités de l'existence, dans les crimes abominables, dans la cruauté, dans ce que la vie est absolument terrible. Et je crois que ce qu'il aime chez les Grecs, et on a eu raison, vous avez eu raison de le souligner, c'est la capacité qu'ont les Grecs à regarder ce fond horrible de la vie, et à ne pas détourner le regard. Et ils ont construit pour ça la tragédie attique. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui dans la question du Dionysiaque et de la fête, c'est une question encore plus profonde que cela, parce que en réalité, le Dionysiaque chez Nietzsche, c'est pas simplement un principe de l'art, c'est pas simplement quelque chose qui, à côté de l'Apollinien ou traversé par l'Apollinien, parce que je suis d'accord, effectivement, ça passe au milieu. C'est que le Dionysiaque pour Nietzsche, c'est le mouvement même du réel. Il me semble que le Dionysiaque chez Nietzsche, c'est trois choses en fait. C'est un principe de l'art dont on parle
de
l'art, une pulsion de la nature qui est à l'origine de l'art, comme l'Apollinien. Mais c'est aussi le mouvement même du réel.
Oui.
Et c'est l'effort d'un penseur. C'est le nom, le masque, le titre qu'il va se donner pour affirmer ces deux autres choses là. Donc effectivement, dans un fragment posthume de la fin de son œuvre en 1888, le fragment 1632, Nietzsche dit « État le plus haut qu'un philosophe puisse atteindre, c'est l'état dionysiaque, un état de complet, d'intégral acquiescement à la totalité des aspects de l'existence » et il lui donne le nom d'amor fati.
Eh bien, on va l'écouter, cet extrait. C'est donc, en effet, un fragment posthume intitulé « À quoi je reconnais mes pères ?»
La philosophie, c'est la recherche délibérée des aspects même les plus maudits et les plus infâmes de l'existence. Par la longue expérience que j'ai tirée d'une telle errance dans les glaces et les déserts, j'ai appris à considérer autrement tous ceux qui ont jusqu'ici philosophé. L'histoire cachée de la philosophie, la psychologie de ces grands noms m'est apparue en pleine lumière. Quelle dose de vérité un esprit sait-il supporter ? Quelle dose de vérité peut-il risquer ? Voilà qui devient pour moi le vrai critère des valeurs. L'erreur est une lâcheté. Toute acquisition de la connaissance est la conséquence du courage, de la dureté envers soi, de la probité envers soi. Une philosophie expérimentale telle que celle que je vis anticipe même, à titre d'essai, sur les possibilités du nihilisme radical, ce qui ne veut pas dire qu'elle en reste à un non, à une négation, à une volonté de nier. Bien au contraire, elle veut parvenir à l'inverse, à un acquiescement dionysiaque au monde, tel qu'il est, sans rien en ôter, en excepter, en sélectionner. Elle veut le cycle éternel, les mêmes choses, la même logique et non-logique des nœuds. État le plus haut qu'un philosophe puisse atteindre, avoir envers l'existence une attitude dionysiaque. Ma formule pour cela est « Amor fati ».
Nous parlons du dionysiaque chez Nietzsche ce matin, dans le cadre d'une série sur la fête, qui est un objet philosophiquement extrêmement riche. Je vous laisse commenter, Stéphane Flocari, s'il vous plaît, parce que c'est un point que vous avez énormément travaillé et que je trouve lumineux, peut-être en nous disant en quoi le fait d'avoir été si malade, d'avoir tant souffert, notamment de céphalées épouvantables, comment cela, chez Nietzsche, non seulement n'a pas enrayé le oui à la vie, mais l'a peut-être même déclenché dans toute sa force. Il faut d'autant plus dire oui à la vie qu'on est malade.
Ah oui, je crois que c'est l'un des cœurs battants de la pensée de Nietzsche. Vous savez, Nietzsche c'est pas un grand spécialiste de la fiesta. Je pense pas qu'il s'est beaucoup éclaté au sens de la langue débraillée de nos jeunes gens. Je pense pas qu'il soit beaucoup amusé. Mais c'est quelqu'un qui a essayé de concentrer ses forces pour essayer de penser la vie et qui à un moment allait éclater, allait exploser. Alors à cause de la naissance de la tragédie et de son échec, à cause de la pente sur laquelle il a lentement descendu les premières années de sa carrière, et effectivement à la fin des années 1870, du côté de Gênes, au moment des fêtes précisément de Noël et du Nouvel An, il est vraiment au bord de l'implosion. Et dans le Gai Savoir, dans la seconde préface au Gai Savoir, il évoque les Saturnales pour parler précisément de sa renaissance. Il dit, dans ce livre, dans le Gai Savoir, qui est un livre qu'il a écrit donc en 1882, à un moment charnière de son existence, ce sont les Saturnales d'un esprit qui a été soumis à une pression tellement importante qu'il a failli ne jamais s'en remettre. Et le Gai Savoir, sur lequel effectivement j'ai écrit à propos du Nouvel An, parce que le quatrième livre commence par « Pour la nouvelle année ». Qu'est-ce que je peux dire pour la nouvelle année ? Là, on est en train de terminer quasiment une année. On est tout début décembre. Dans un mois, il nous faudra prendre la lourde responsabilité de nous tourner vers une nouvelle année et de nous résoudre à vivre encore. Ben, Nietzsche dit, moi, voilà, je pense encore, je vis encore et je veux dire oui, oui à la vie. Alors, la question de ce oui et de l'affirmation et de l'acquiescement, au-delà de la dimension biographique et de tout ce que Nietzsche a souffert, pose vraiment une question philosophique de fond. C'est-à-dire, en fait, est-ce que le oui, c'est l'auto-affirmation de la réalité par elle-même ? Au fond, est-ce que le dionysiaque, c'est ce débordement de la vie qui est capable d'être en accord avec soi ? Ou bien est-ce qu'il faut une figure, celle du philosophe, qui soit capable de produire ce oui. Est-ce que ce oui, c'est le mouvement même du réel, ou est-ce que c'est la force qu'a un être face à ce mouvement contradictoire, problématique, terrible? Il multiplie les adjectifs pour qualifier ce qu'il appelle indifféremment la vie, le monde, la nature, etc. Et tout à l'heure, on a évoqué le terme de nihilisme et le terme de pessimisme. Il me semble qu'il y a une chose extrêmement importante, c'est qu'en 1886, quand il publie l'essai d'autocritique, qui est la deuxième, la nouvelle préface à La naissance de la tragédie, il l'appelle « Hellénité et pessimisme ». Et là, il y a un grand, grand problème, hein, parce que est-ce que « Hellénité et pessimisme », est-ce que le « et », c'est une liaison, ou est-ce que c'est une opposition ? Et lui, il nous parle d'un nouveau pessimisme. Il nous parle du pessimisme de la force. Et il me semble que le dionysiaque, dans la dernière partie de la pensée de Nietzsche, c'est ça. C'est la ressource que Nietzsche invente à partir des Grecs pour produire le cœur de sa pensée, c'est-à-dire l'affirmation de l'existence de la totalité de ses aspects, y compris les aspects les plus terribles, et les faits mettent cela au jour. Les fêtes dans lesquelles il y a des supplices, dans lesquelles il y a des cruautés, dans lesquelles il y a des actes sexuels, l'ivresse, l'instinct sexuel, la cruauté, tout sort lors d'une fête. Et il me semble que du point de vue de la différence entre l'apollinien et le dionysiaque, la capacité qu'on a dans les Dionysies à gommer les limites est la meilleure manière de les surligner et de les rappeler.
Alors, merci. Je voudrais souligner pour les auditeurs qui ne sont pas forcément autant spécialistes de Nietzsche, œuvre et biographie que vous deux, qu'on ne sait pas très bien de quoi souffrait Nietzsche. Il a eu des céphalées absolument terribles avec des vomissements. Il était probablement migraineux. Mais par ailleurs, on ne saurait oublier que son père a eu une tumeur du cerveau. Donc là, on n'a pas le cerveau de Nietzsche, on n'a pas pu vérifier. Et enfin, il a sans doute attrapé la syphilis. Et c'est sans doute de ça n'a pas dû aider sur le plan neurologique à partir d'un certain moment. Et il s'est effondré en 1889, paralysé. Et pour un homme qui aimait la vie et qui voulait que la mort soit une fête, c'est assez affreux. C'est affreux toujours, mais alors pour Nietzsche en plus, c'est exactement ce qu'il ne voulait pas. Il a passé 10 ans de sa vie totalement paralysé avant de mourir en 1900. Je voudrais, s'il vous plaît, Lucie Le Breton, qu'on vienne à partir de ces précisions au Gai Savoir, cette fois-ci au paragraphe 22, où il parle d'un roi et il suggère que ce roi pourrait être malade. Il faut cependant un maître des cérémonies qui organise, je cite, les affaires et les plaisirs de notre très gracieux Seigneur qui dort encore. Je vous écoute.
Oui, on comprend en fait que le roi malade qui dort encore, c'est Nietzsche lui-même et bien sûr le maître de cérémonie qui essaie d'organiser les plaisirs pour cette majesté, pour la divertir de sa douleur et du temps qu'il fait puisqu'il ne fait pas beau. En fait, c'est Nietzsche lui-même également qui en fait organise sa journée de la manière la plus festive possible pour se la rendre supportable à lui-même. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que la fête chez Nietzsche, c'est l'œuvre d'art, enfin c'est l'art appliqué à la vie. C'est-à-dire qu'il y a cette idée intéressante chez Nietzsche qui est que la fête est en fait le plus haut des arts à ses yeux, et il reproche même aux artistes de cantonner leur activité aux œuvres d'art elles-mêmes.
Oui.
Il y a des textes assez surprenants où il dit que finalement, peut-être qu'un jour, l'artiste retiré à l'écart et créant ses œuvres de son côté aura disparu et que tous les artistes finalement s'appliqueront à créer des fêtes. C'est-à-dire que il dit la grande tâche de l'art, c'est d'embellir la vie. Et il explique que nous avons beaucoup à apprendre des artistes parce que les artistes, ils savent embellir, cacher les aspects déplaisants et réinterpréter ce à quoi ils s'appliquent. Et Nietzsche dit, le problème, c'est que les artistes, en général, s'arrêtent aux œuvres d'art et lui dit, nous voulons être les poètes de notre propre vie. C'est-à-dire que la vie n'est jamais par elle-même belle, désirable, et tout notre travail, c'est de l'embellir pour qu'elle devienne aimable, désirable, pour qu'on puisse y acquiescer pleinement.
Paragraphe 299 du Gai Savoir que vous venez de citer. Nous voulons être les poètes de notre vie. Il reproche aussi aux soi-disant amateurs d'art d'aimer les objets d'art et les produits de l'art plus que l'activité artistique elle-même. Au passage, je crois bien que ce sont les Romains qui ont inventé les musées. Ça fait partie des raisons pour lesquelles ils pourraient leur être hostiles. Les Grecs auraient eu un rapport à l'art beaucoup moins collectionneur.
Oui, c'est-à-dire que Nietzsche dit quand on croit que les œuvres d'art ont la capacité d'embellir notre vie, on se trompe. Les œuvres d'art n'ont pas cette capacité et on met les choses à l'envers. C'est-à-dire que ce ne sont pas les œuvres d'art qui vont embellir notre vie, c'est plutôt d'un embellissement artistique de la vie à travers la fête, notamment, que vont découler un peu comme un surplus les œuvres d'art. Et c'est effectivement ainsi que le concevaient les Grecs. Si on regarde Nietzsche, par exemple, dans le cours qu'il donne sur le culte grec à l'université de Bâle, souligne que si on prend toute la littérature grecque, la poésie, la tragédie, la comédie, ce sont en fait des espèces de monuments de leur moment festif, c'est-à-dire des œuvres qui rappellent ces moments festifs et qui ont été créées durant des moments festifs. On pourrait d'ailleurs dire la même chose de la statuaire grecque, si on y réfléchit bien, quand on pense que l'Éphèbe qui était statufié, c'était le vainqueur aux Jeux Olympiques. Donc les Grecs concevaient les œuvres d'art comme quelque chose de secondaire qui était plutôt là pour rappeler les grands moments festifs qu'ils avaient vécus. Et donc Nietzsche le conçoit aussi de cette manière-là.
Alors parlons un peu de la quatrième partie de Zarathoustra, ainsi parlait Zarathoustra, et de ces hommes supérieurs qui ne sont pas les surhumains ou les surhommes qu'il évoquera par ailleurs. Ces hommes supérieurs, qui sont-ils? Pourquoi sont-ils intéressants? Et puis il y a une histoire d'âne, l'animal, que j'aimerais que vous nous racontiez, Lucie Le Breton.
Oui, alors... Au début de la quatrième partie d'Ainsi parlait Zarathoustra, Zarathoustra part à la rencontre des hommes supérieurs qui sont en fait des hommes qui auraient sans doute pu devenir des surhumains s'ils n'avaient pas eu contre eux une civilisation et des valeurs qui leur étaient foncièrement hostiles.
Pouvez-vous rappeler ce que c'est que le surhumain pour Nietzsche? C'est un mot qui en plus est tellement,
oui,
tellement souvent mécompris que ça ferait du...
Alors
bien.
Le surhumain, il ne s'agit pas de quelque chose d'autre qu'un humain. En fait, c'est un humain qui aurait été élevé, comme dit Nietzsche, avec des valeurs qui ne sont pas hostiles à la vie, comme celles, selon Nietzsche, du christianisme et du platonisme, et qui donc parviendrait finalement à cette puissance dionysiaque d'acquiescement à la vie. Et donc... Tout l'objet de la philosophie de Nietzsche, en fait, c'est de rendre possible l'apparition d'un tel homme. Et les hommes supérieurs, ce sont plutôt des espèces d'esquisses qui nous montrent que l'homme peut être autrement que ce qu'il est, qu'il peut être riche, qu'il peut approuver la vie. Mm-hmm. Mais les hommes supérieurs ont surgi un petit peu par hasard, dans des contextes, dans des civilisations qui ne leur étaient pas franchement favorables.
Donc ils résistent un peu, mais ils ne sont pas au point où ils ont réussi à se réinventer eux-mêmes.
Alors, c'est-à-dire qu'ils sont des hommes exceptionnels que Nietzsche admire toujours, mais ils sont généralement cassés, brisés, tordus. Déjà, ils finissent en général très mal. Hein. Ils finissent dans la destruction de soi, dans la folie. Donc les hommes supérieurs, ce sont ces hommes-là. Et d'ailleurs, dans Ainsi parlait Zarathoustra, Zarathoustra est attiré par un cri de détresse lancé par ces hommes supérieurs.
Alors, attendez, je veux déjà comprendre. Est-ce qu'ils font la fête ou ils ne sont plus en situation Alors, de la non. faire quand Ou ils ont le sens de la fête sans en avoir
quand
l'art?
Quand ils les rencontrent, ils n'ont pas du tout le sens de la fête. Ils sont plutôt dans une forme de détresse. Et
ils sont vaincus, on peut dire ça? Par les autres?
Pas tout à fait. Oui, en tout cas, très mal en point.
D'accord.
Et Zarathoustra va les inviter tous, les uns après les autres, à une fête dans sa caverne. Mmh. Et donc, à la fin du quatrième livre, on retrouve tous ces hommes supérieurs, alors qui ont tous des noms énigmatiques, l'ombre, le mendiant volontaire, le plus hideux des hommes, etc. Et on sait d'ailleurs que derrière ces noms énigmatiques se cachaient des hommes donc auxquels Nietzsche pensait très précisément. Et quand Zarathoustra les voit festoyer, les voit se réjouir, il se dit « Ah, ils reprennent goût à la vie mmh. ». Et donc, c'est un bon signe. Et il ajoute « Bientôt, ils inventeront eux-mêmes des fêtes ». Et c'est ce qui va se produire, puisque les hommes supérieurs, à un moment où Zarathoustra sort de l'endroit où il se trouve, les hommes supérieurs vont inventer eux-mêmes la fête de l'âne, qui est une espèce de parodie de cérémonie religieuse.
C'est-à-dire ?
Alors, c'est-à-dire que Zarathoustra est au début très inquiet, c'est-à-dire qu'il pense qu'ils sont redevenus pieux. Il voit qu'ils font brûler de l'encens, il commence à prier et à dresser des prières à l'âne. Et donc, Zarathoustra est d'abord très inquiet, et en fait, les hommes supérieurs lui expliquent que c'était pour rire. Que c'était au contraire une manière de parodier finalement la solennité d'une cérémonie religieuse.
Mais qu'est-ce que ça veut dire que l'âne n'est vraiment pas un animal qu'on pourrait idolâtrer ? C'est le contraire d'un dieu, c'est pour ça que c'est drôle de le célébrer. Qu'est-ce que c'est cet âne exactement ? C'est le retour du tragique. Ah bah regardez la tête de nos dieux à nous, ce sont juste des ânes. Par ailleurs, c'est un animal très très touchant, je trouve l'âne, mais bon, très très mignon, très bon. Mais c'est vrai que c'est pas une figure divine évidente, donc c'est une grande farce, un rire.
Oui, c'est une farce. Et puis, il y a aussi la dimension idolâtrique qui est d'adorer un animal. En fait, il y a toute... Nietzsche réécrit en quelque sorte l'épisode du veau d'or avec Moïse qui est absent et qui revient. Les Hébreux sont en train d'adorer le veau d'or. Donc, il y a toute une réécriture de cela. Et donc là, ce sont les hommes supérieurs qui vénèrent cet animal qui incarne la bêtise. Et donc avec cette idée que il y a une forme d'abêtissement finalement dans cette manière de prier et de vénérer.
Alors on va reparler de la prière, du oui à la vie contre en particulier les rites chrétiens, peut-être de la figure de Pascal qui est franchement l'ennemi hein, pour Nietzsche, mais vous...
Je ne suis pas d'accord, je ne pense pas.
D'accord, j'ai cru que vous disiez cela. Mais en tout cas, je voudrais qu'on parle de la fatigue après avoir évoqué la maladie. La fatigue, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Peut-être faut-il connaître les bons moments pour faire la fête. Écoutez cet extrait de « Humain, trop humain » cette fois-ci.
Partout, aujourd'hui, les représentants du grand art promettent délassement et divertissement, s'adressent à l'homme fatigué et lui réclament les soirées de sa journée de travail. Exactement comme les artistes du divertissement qui sont satisfaits quand ils ont remporté une victoire sur les fronts lourds de sérieux et les regards éteints. Les représentants du grand art ont dans leur boîte les excitants les plus puissants, qui pourraient faire sursauter même un mourant. Ils ont des stupéfiants, des boissons enivrantes, des moyens d'ébranler et de donner des crises de larmes, grâce auxquels ils subjuguent l'homme fatigué et le plongent dans une surexcitation nocturne, dans des hystéries de ravissement et d'effroi. Faudrait-il alors, à cause du caractère dangereux de ces moyens, en vouloir au grand art, tel qu'il s'incarne aujourd'hui dans l'opéra, la tragédie et la musique, comme s'il était un pêcheur perfide? Certainement pas. Il préférerait 100 fois vivre dans l'élément pur du calme matinal et s'adresser aux âmes matinales fraîches, pleines d'attente et d'énergie des spectateurs et des auditeurs. Sachons-lui gré de préférer vivre de cette manière plutôt que de disparaître. Mais avouons-nous aussi que, pour une époque qui introduira de nouveau dans la vie des jours de fête et de joie, libres et pleins, notre grand art sera inutilisable.
France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mühlmann.
Et merci à Nicolas Berger, non seulement d'avoir lu Nietzsche, mais d'avoir mis Wagner en dessous en tapis sonore, car le mot hystérie, très péjoratif pour Nietzsche, est employé dans ce texte. Dans d'autres textes, il l'emploie à propos de Wagner. C'est une vision de l'art, en tout cas le dernier Wagner et le dernier Nietzsche déteste le dernier Wagner. C'est stimuler, c'est faire de l'art un remontant pour les hommes fatigués. Et ce n'est pas du tout cela que l'art doit produire en nous. À nous nous débrouiller pour ne pas être trop fatigués, Stéphane Flocari, et tels les Grecs, aller au théâtre ou au cinéma le matin. L'art n'est pas un remontant.
Non, c'est un stimulant de la vie. C'est tout à fait autre chose qu'un remontant. Nietzsche pense effectivement que vivre, c'est souffrir. Mais il y a deux attitudes face à la souffrance. Soit vous vous videz progressivement de la vie et la vie s'appauvrit elle-même. Soit, au contraire, vous êtes capable de la surabondance. Vous savez, cette sentence qu'on cite très souvent de Nietzsche, la vie sans la musique serait une erreur. On oublie ce qu'il y a juste derrière. Une fatigue, un exil. Sans la musique, la vie serait une forme d'exténuation. L'art de la fête, c'est quoi? C'est quoi la fête, au fond? C'est quoi la chance et le risque de la fête? La chance et le risque de la fête, c'est précisément dans la grande souffrance que la vie peut produire sur les êtres, c'est de leur permettre de faire éclater les lignes, les limites, de déborder, précisément. Et dans une fête, qu'est-ce que c'est qu'une bonne fête? Qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise fête? Qu'est-ce que c'est qu'une fête réussie ou une fête pas réussie? Vous voyez, nous évoquions juste avant la fête de l'âne, dans la fin, oui, de la quatrième partie d'Ainsi par les Zarathoustra. C'est très important parce que, ça encore, Nietzsche, il ne le trouve pas n'importe où, et ça résonne pas non plus n'importe comment dans la pensée contemporaine, et y compris dans la poésie.
Comment vous l'entendez-vous, cette fête de l'âne?
Parce que on sait que il aurait probablement trouvé à l'époque du côté de Lichtenberg cette question de la fête de l'âne qu'on connaît chez les chrétiens, hein, qui est une sorte de fête païenne. On en trouve des traces à Autun, à Beauvais, dans différentes provinces en France, où en fait on rejoue la fuite d'Égypte. Donc il y a un âne, on met une jeune fille dessus, on lui met un nourrisson dans les bras, et puis elle s'en va, elle fuit, et puis tout le monde rit, tout le monde fait « i-an », hein, et puis c'est aussi, à cette époque, des moments où, j'en parlais dans « Survivre à Noël », Les chrétiens ont beaucoup, beaucoup lutté contre ça, parce qu'il y avait de tels débordements dans les fêtes médiévales qu'on faisait faire des messes à des enfants. C'est-à-dire qu'à la fin, c'était les enfants qui faisaient la messe à la place des curés. Donc on a arrêté tout ce tohu-bohu. Ça ne fonctionnait pas. Mais il me semble que l'âne, c'est celui qui fait « i-an ». Et en allemand, c'est celui qui dit « ja ». C'est celui qui dit « oui ».
Donc or, c'est une figure très positive.
C'est une figure extrêmement importante dans les équidés, dans la tradition occidentale. On a le cheval qui est tout en haut, qui est l'animal noble, n'est-ce pas, depuis les Grecs et même avant. Et puis on a l'âne. Hein, l'âne, t'as un bonnet d'âne, t'as un âne batté. On nous disait ça avant dans les écoles, n'est-ce pas. Donc l'âne, c'est la figure de l'idiot. Sauf qu'il y a quand même un grand, grand poète français contemporain qui s'appelle Victor Hugo. Il ne l'a pas publié, mais il a fait un poème de 4000 vers où il y a un âne qui discute avec Kant. Et il dit, en fait, dans cette discussion, c'est que l'âne, c'est Kant sans queue ni tête, sans le K et le T à la fin.
Ah. Hein?
Et donc, il y a cette idée que l'âne aussi est quand même un symbole sexuel, comme le cheval d'ailleurs, hein, de puissance sexuelle, de vigueur sexuelle. Et donc, il y a dans l'usage de l'âne, dans l'évocation de l'âne chez Nietzsche, quelque chose de critique, quelque chose de parodique, qu'il reprend les chrétiens, mais qui le conduit à dire quelque chose qui lui est propre. À mon avis, ce que dit Nietzsche, c'est que, précisément, qu'est-ce qui caractérise l'âne? C'est qu'on a l'impression qu'il est capable que de faire oui. Il dit oui à tout.
Et ça, c'est magnifique pour Nietzsche.
Ou au contraire, qu'il dit non à tout. Et la grande idée de Nietzsche, quand même, c'est qu'il n'y a pas de oui qui ne soit habité par un non. Il n'y a pas d'affirmation.
C'est le mauvais oui, l'âne.
Il y a le bon,
système.
Voilà, il y a le bon et il y a le mauvais oui. Il y a ceux qui ne savent que dire oui, celui qui ne sait que dire oui ne sait pas paradoxalement dire oui, et celui qui peut dire non peut avoir un oui qui soit un oui véritablement affirmatif et affirmateur. Tout à l'heure, quand on parlait de l'art comme affirmation, comme stimulant de la vie, effectivement, Nietzsche nous dit il y a quelque chose de supérieur à l'art des œuvres d'art, c'est l'art des fêtes. Ça, c'est tout à fait juste. Et dans Le Gai Savoir, on a évoqué les jours. Tout à l'heure, il y a deux textes sur les jours dans Le Gai Savoir. Il y a l'histoire de tous les jours. Dis-moi quelle est l'histoire de tous les jours. Quelles sont tes lâchetés, tes paresses? Comment tu organises ta vie? Et puis, il y a l'ordre du jour, le texte sur le roi qu'on a lu tout à l'heure. Mais il me semble que l'une des choses que dit Nietzsche à cette époque-là, c'est que l'art supérieur, c'est l'art des fêtes, qui doit surtout pas faire qui doit surtout pas disparaître sous l'art des œuvres d'art. Et il y a une figure de Dionysios dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est le Dionysios qui réapparaît dans Par delà bien et mal, après Le Gai Savoir, qui devait être sa suite et qui finalement ne l'est pas, c'est le génie du cœur. C'est le génie du cœur dans l'aphorisme 295 du Gai Savoir, c'est ce génie mensonger, ce génie qui est capable de jouer avec la vérité, qui est capable de jouer avec les valeurs. Et il me semble que c'est ça, une fête. Une fête, c'est pas simplement un moment où on s'amuse, où on s'enivre, etc. C'est un moment où on joue avec les codes, c'est un moment où on casse les codes, les hommes s'habillent en femmes, les femmes en hommes, les chefs en esclaves, etc. Depuis les Grecs et depuis les Romains, ça se passe comme ça.
Alors, merci pour le cœur, parce que le cœur, le génie du cœur, c'est un pont évident vers Pascal. Il y a des raisons du cœur que la raison ignore, il y a une force de vie et d'amour qui vient du cœur chez Pascal. Pascal est quand même un peu moqué, enfin j'y vais prudemment maintenant, parce que tout à l'heure on va bien retoquer, ouais, par Nietzsche, et je crois qu'il évoque à un moment donné la formule de Pascal évoquant sa nuit mystique,
oui,
la formule où il avait senti la présence de Dieu, certainement dans son cœur, et la formule de Pascal, c'est « éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre ».
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que Nietzsche lit là-dedans ?
En fait, dans la quatrième partie, dans Ainsi parlait Zarathoustra, j'ai essayé de montrer que le plus hideux des hommes, en fait, est une figure pascalienne. C'est-à-dire que Nietzsche avait réellement beaucoup d'admiration pour Pascal. Alors, si, ça serait très long à expliquer, mais il l'admirait véritablement. Et il pensait que s'il avait vécu un peu plus longtemps, il serait sans doute devenu un athée comme lui. Le plus hideux des hommes, à la fin de la quatrième partie, dit se convertit à la pensée de l'éternel retour. C'est-à-dire qu'il va dire une seule journée, une seule fête chez Zarathoustra m'a appris à aimer la vie. C'était donc cela, la vie, dirais-je, à la mort. Eh bien, recommençons. Et je pense qu'il y a une allusion dans le texte nietzschéen, effectivement, à cette formule de Pascal, éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. Sauf que le jour, alors évidemment, il la reprend pour lui donner un sens pas du tout chrétien. C'est-à-dire que le jour d'exercice sur la terre, ça devient la fête chez Zarathoustra. Et la joie éternelle, ça n'est pas la joie chrétienne de la vie éternelle, ça devient la joie de l'éternel retour. C'est-à-dire, l'éternel retour, qu'est-ce que c'est chez Nietzsche? C'est l'idée d'aimer suffisamment la vie pour être prêt à la revivre éternellement à l'identique. Avec tout ce qu'elle peut comporter de terrible, de pénible, de difficile. Donc c'est intéressant parce que la pensée de l'éternel retour, elle est aussi sous-tendue sur l'idée qu'il faut avoir vécu des instants élevés pour lesquels on est prêt à supporter le retour.
Alors, si vous me permettez, oui, tout à l'heure j'ai dit, comme on dit souvent, que ces 10 dernières années de paralysie totale de Nietzsche, qui sont un peu mystérieuses, on ne sait pas très bien ce qu'il pouvait penser, c'était certainement l'horreur absolue, mais pour qui cela ne le serait-il pas? Et d'un autre côté, on pourrait peut-être se demander, Stéphane Flocari, si Nietzsche qui vit dans l'état dans lequel il est, ne nous donne pas aussi, peut-être par son... S'il était un peu conscient, on ne sait pas tout, mais c'est encore une façon de dire, bah oui, c'est l'éternel retour, même ça, même ces moments-là, je les vis, je les accepte. On ne sait pas ce qu'il pensait, mais voyez, on a tendance spontanément, Stéphane Fogarry, à dire que c'était pour lui terrifiant, mais peut-être que sa philosophie dit autre chose.
C'est possible, c'est une lecture qu'on peut faire des choses. On peut aussi voir son effondrement lui-même et la manière dont il a sombré dans la folie comme quelque chose qui parle précisément en lui et de sa propre vie et de sa propre pensée. Il y en a contenté de le faire, des gens comme par exemple comme Pierre Klossowski, qui en leur temps ont essayé de montrer comment on pouvait donner un sens philosophique à l'état dans lequel se trouvait Nietzsche. Moi, l'une des choses qui me rendrait un peu hésitant en la matière, c'est qu'en réalité, ce qui est terrible dans ces années-là, c'est pas simplement ce qui arrive à Nietzsche physiquement, parce que finalement, en janvier 1889, il s'est effondré, et il reviendra pas, il écrit quelques petites choses comme ça, il joue un peu du piano, il va dans le jardin, à Lévy raconte qu'il bouge tellement pas dans le jardin que les oiseaux viennent se poser sur lui, tellement il est devenu immobile. Mais ce qui est terrible dans ces années-là, c'est surtout ce qu'il joue pour sa pensée. Comment sa pensée et commence à être déformée, réappropriée, détournée d'elle-même,
oui, quoi. Notamment par sa sœur.
Notamment par sa sœur Elisabeth, oui, bien sûr.
Dionysus, we are come to praise you for the wondrous blessing, the taste of wine. Evoe, twine to produce the grapes that produce the wine. Evoe,
la 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 la.
Evoe,
la 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 la.
Out of wine comes truth, out of truth the vision clears, and with vision soon appears a grand design. From the grand design you can understand the world. And when you understand the world, you need a lot more wine.
Dionysus, we are come to join you in a shout of joy at the only shrine
where you come benighted and leave benign for that endless blessing, the taste of wine. Evoe, a la la, a la la. Evoe, a la 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 la.
Vous entendez l'hymne à Dionysos de Stephen Sondheim. Merci beaucoup Lucie Le Breton, Stéphane Flocari. Les références de vos travaux sont sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms qui cette semaine se demande ce qu'est un public. Voici le pourquoi du comment.
Comment le public intervient-il dans nos vies ? Dans des sociétés politiques complexes et hautement élaborées comme nos sociétés démocratiques contemporaines, on a tendance à penser le public comme une partie de nos vies opposée à une autre qui serait bien entendu le domaine du privé. De fait, dans les sociétés démocratiques, pour une raison que nous pressentons comme étant très profonde, il y a un partage de ce qu'on appelle le public et le privé. Mais faut-il définir d'abord le public par opposition au privé ? Faut-il commencer par se disputer en essayant de délimiter les domaines qui relèvent du public et ce qui relève du privé, où s'arrête la vie privée, où commence le service public, où s'arrête le service public, où commence la liberté privée. Ce sont des débats très importants et ce sont justement des débats public. Pour comprendre la façon dont on discute dans nos sociétés de cette ligne de partage qui est fondamentale, qui fait que certains aujourd'hui contestent toute intervention du public dans nos vies et que d'autres, au contraire, considèrent que la fragilité de nos vies appelle une intervention publique dans tous les domaines face à des dangers de plus en plus graves et de plus en plus communs dans chaque pays et dans le monde. Pour trancher ce débat, il faut donc revenir sur ce qui constitue, sur ce qui définit le public en tant que tel. Le public, c'est bien entendu d'abord ce qu'il y a de commun, ce qu'une société doit partager face justement d'abord à des dangers communs. S'il n'y avait pas de danger commun, nous n'aurions peut-être même pas besoin de la société et de la politique. La fragilité humaine, la nécessité de se compléter, de se rendre mutuellement des services, de partager le travail face à des défis communs, est à l'origine du commun, de la société, mais aussi du public, comme espace de réflexion justement sur ce qui est absolument vital à mettre en commun pour répondre à des défis qui nous concernent toutes et tous. Le public, ce n'est donc pas seulement le commun, c'est aussi justement la réflexion commune sur ce qui doit être mis en commun pour échapper aux dangers, tout en respectant ce qui est aussi un besoin commun, à savoir le besoin d'une vie qu'on dit privée, c'est-à-dire d'une vie individuelle où n'intervient pas toute la société. Tout dans nos vies ne concerne pas en effet la société. Les grands philosophes de la fin du XVIIIe siècle définissaient justement le public par la justice et le privé par la recherche du bien, ce qui relève des relations entre les individus et notamment de leur violence possible relève du public, ce qui relève de ma recherche individuelle du bonheur ne relève pas de l'autorité ou de l'intervention du public. Mais le plus important, c'est précisément qu'il existe dans des sociétés qui ont institué la réflexion sur le bien commun et son partage avec le privé, qu'il existe justement un espace public, un espace qui soit défini non seulement par une réflexion sur les enjeux communs, mais qui soit lui-même protégé comme un espace de parole libre où personne ne peut s'approprier le discours unique sur le bien commun. D'une manière générale, le public, c'est ce que personne d'individuel ne peut s'approprier. C'est l'espace partagé qui permet de protéger ce qui ne peut l'être sans l'intervention commune, tout en protégeant aussi ce qui relève de nos vies privées. L'intimité individuelle, la recherche du bonheur dans le respect des biens publics, des libertés publiques et des obligations publiques, même cela suppose une protection publique. Ainsi, le partage du public et du privé suppose d'abord qu'il y ait un espace inappropriable, un certain nombre de services garantis à tous pour que chacun et chacune ensuite puisse mener sa vie comme il l'entend.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être écoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Paul Guig. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Nassim El-Kabli, Corinne Amar, Victoire Mellet. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.